Cuisin, ombres sanglantes, premières ombres, la demeure d'un parricide ou le triomphe du remords. Le destin d'Amédée est d'être criminel, mais son cœur était fait pour aimer la vertu. S'il est vrai que le génie prophétique du fatalisme est tracé d'avance sur un livre d'airain les destinées prospères ou malheureuses des mortels, il n'est pas douteux que l'homme qu'il destine à tremper ses mains dans le sang de l'auteur de ses jours est de tous les hommes le plus infortuné. Ne faudrait-il pas mieux mille fois qu'il ne fût jamais né que d'occuper le premier rang parmi les êtres les plus exécrables de la nature? Solon, ce grand législateur de la Grèce, concevait une telle horreur de ce forfait que dans ses codes il ne voulut faire aucune loi pour le punir, persuadé qu'il n'était pas dans les crimes possibles. Mais à Rome, le parricide s'étant plus d'une fois renouvelé, Romulus, l'illustre fondateur, ordonna qu'on punirait le coupable en le jetant vivant à la mer dans un sac de cuir avec un perroquet et un singe. Ce supplice était trop doux. Il faut faire renaître mille fois l'assassin de son père, lui enlever et lui rendre la vie tour à tour, et ne le frapper enfin du coup mortel qu'après un siècle de lente agonie. Cambyse, ce prince persan, si célèbre par ses malheureuses expéditions guerrières, fut de tous les rois celui qui imagina contre les parricides les tortures, les douleurs les plus cruelles. Le criminel, enchaîné dans un cachot, portait attaché sur ses épaules le cadavre de sa victime, de manière à ce que son visage livide touchât et regardât le sien. La putréfaction s'inoculait insensiblement du mort au condamné, qu'on nourrissait d'ailleurs avec le plus grand soin, et l'un et l'autre finissaient par tomber en pourriture sous la qualité prodigieuse des vers qui les rongeaient, et le parricide, par une espèce de loi du talion, se voyait à son tour déchirer les entrailles par celui-là même qu'il avait assassiné. Cette idée terrible, cette invention épouvantable de rendre aux cadavres même le pouvoir de se venger de leur bourreau, d'imprimer au néant une réaction homicide et de prendre dans la tombe même l'instrument de la punition, est sans contredit le plus bizarre, le plus affreux des supplices. Qu'on se figure l'assassin, déjà déchiré de ses souvenirs, ne pas pouvoir faire un geste, le plus simple mouvement, sans sentir le poids énorme de son forfait. Si seulement au physique la douleur paraît insupportable, combien elle est plus déchirante au moral. Voyez-vous d'ici, à travers mes peintures imparfaites, ce visage pâle, sanglant, cette teinte verte, ses prunelles rouges et fixes, ses cheveux roides imbibés de sang séché. Surtout, oh surtout, cette bouche renversée, baveuse et convulsive, qui semble articuler encore « mon fils, épargne ton père !» Ah, ces tortures atroces rejoignent d'autres peut-être plus cruelles encore. Si la victime de notre assassin reçut le coup mortel dans le cœur, son sang reflue par bouillons sur le corps du parricide, qui ne peut plus faire un geste sans en être baigné. Que son sommeil, si toutefois il peut dormir, doit être affreux. Il ne peut s'étendre que sur le corps sanglant de son père, et à toutes les secondes du jour ou de la nuit, sa vie n'est plus qu'un long assassinat qui le replace dans toute l'énergie, dans toutes les horreurs de son crime, et lui ferme les portes du repentir, comme un anthropophage qui s'est mis de lui-même hors de toutes les lois divines et humaines. Tel était le supplice, du moins au moral, d'Amédée, baron d'Altamonge, possesseur d'un château antique situé au milieu du Rhin entre Bonn et Koblenz. Ce château, propriété héréditaire et fief des barons d'Altamonge depuis un temps immémorial, avait servi autrefois de forteresse lors des révolutions du Bas-Empire ainsi que dans les guerres des princes médiatisées de l'Allemagne. 15 générations avaient vu ces créneaux, ces 4 tours parallèles. Plus d'un combat fameux, soit à coups de fronde, de flèche ou de javeline, du temps de Jules César et de Brennus, soit lorsque le salpêtre inventé rendit les chances de la guerre encore plus meurtrières, s'y était passé sur les ondes d'un fleuve fécond en époque mémorable, et sa solidité inaltérable faisait face à tous les siècles. Ce château était d'ailleurs l'objet de l'admiration des navigateurs qui, sur un bâtiment hollandais, entreprenaient de parcourir les rives du Rhin depuis Düsseldorf jusqu'à Cologne, voyage le plus pittoresque, le plus intéressant d'ailleurs, que jamais on puisse faire. Et tous les vaisseaux qui passaient majestueusement sous ces donjons en rendaient le séjour enchanteur dans la belle saison. C'est là qu'Amédée, jeune, bien fait, de la physionomie la plus heureuse, et dernier rejeton de la branche des Altamonges, avait fixé depuis quelque temps son séjour, après avoir changé 20 fois de résidence, car il possédait en outre une maison de ville à Koblenz, une terre dans les environs d'Andernach, et sa fortune le mettait bien en état de vivre à la cour la plus brillante d'un des électeurs qui riait dans ce temps-là sur les bords du Rhin. Mais quels sont les carreaux assez moelleux pour reposer la tête d'un criminel? Quel lieu charmant de leur nature ne revêtent pas les sombres couleurs du deuil et de l'inquiétude aux yeux d'un coupable? C'était l'affreuse situation d'Amédée. Les plus riantes images, les tableaux les plus frais de la société ne pouvaient dissiper dans son âme flétrie cette profonde taciturnité dont le peuple public lui-même ignorait la véritable cause. Il était criminel, il était parricide enfin. Et ce cœur sensible, né pour la vertu, s'était un instant égaré sur les pas de l'amour et de l'ambition. Il est temps d'expliquer les circonstances de ce forfait exécrable. Le baron d'Altamonge, père d'Amédée, destinait à son fils, depuis son enfance, la main de Christine de Melsingberg, fille d'un ancien compagnon d'armes du baron, qui, dans une bataille sanglante, lui avait généreusement sauvé la vie. Christine n'avait point de fortune et n'apportait pour dot que l'illustration de ses aïeux. Elle était donc destinée à être le gage de la reconnaissance du baron envers son libérateur. Malheureusement, ses sentiments et ses convenances de gratitude n'entraient en aucune manière dans les idées d'Amédée, qui de son côté, épris des charmes d'une jeune beauté riche et l'un des plus beaux partis de l'Allemagne, avait fixé tous ses vœux. Il avait vu, que dis-je, il avait contemplé pour la première fois les attraits de Blanche de Lindorf dans un bal à Koblenz, dont l'éclat de sa beauté, ses grâces, sa jeunesse, sa parure faisaient le principal ornement. La voir, l'admirer dans sa danse légère et noble, toucher de sa main, tremblante des feux soudains d'un premier amour, sa main d'albâtre et respirer dans ses beaux yeux noirs la passion la plus violente, fut pour Amédée l'effet de l'éclair. Il n'y avait pas une heure qu'il s'enivrait de la vue de cet objet enchanteur, qu'il prononçait déjà dans son cœur le serment solennel de n'avoir jamais d'autre épouse. Blanche, de son côté, n'avait pas aperçu le superbe Amédée sans ressentir un secret orgueil de se voir l'objet particulier de ses soins et de ses regards passionnés. À la vanité avait succédé dans son âme le sentiment, et une chaîne comme électrique avait uni tacitement les deux amants les plus enivrés d'une égale ardeur. Blanche, résistant par pudeur à ses propres penchants, avait dissimulé le plus longtemps possible sa défaite. Mais lorsqu'Amédée, dans d'autres entrevues ménagées, lui eut appris que son cœur avait été entièrement libre jusqu'au moment délicieux du bal, que jamais il n'avait senti pour telle femme que ce fût le pouvoir de l'amour avant qu'il eût aperçu son céleste visage, Blanche, voyant ses sentiments approuvés par ses propres devoirs, crut pouvoir s'abandonner sans réserve au charme d'une inclination qui lui présentait la plus heureuse perspective. D'un autre côté, persuadés l'un et l'autre, en leur qualité d'enfants uniques, que leurs parents ne pouvaient que sourire à cette union, ils se livrèrent entièrement à leur tendresse. Blanche n'y mettant d'autre borne que celle qu'elle devait à sa vertu et à sa réputation. Instant délicieux, prémices d'amour, où deux jeunes cœurs s'abandonnent à la virginité, à la pureté de leurs sentiments. Vous êtes bien pour l'homme le suprême bonheur sur la terre. En effet, qui ne se rappelle avec transport, avec attendrissement, le premier baiser virginal de sa jeunesse, le moment divin où une bouche adorée vous balbutia, les yeux baissés, « Oui, je vous aime », ou plus heureuse encore, on serra dans ses bras, on pressa sur son sein le sein ému de sa maîtresse, et enfin, où l'on échangea, dans l'excès de son délire, les gages ordinaires de l'amour. Ces moments inappréciables avaient été connus et avaient été sentis par Amédée, par Blanche, sa fidèle et tendre amante. Portraits, cheveux, bagues, bracelets, écharpes brodées et chiffres amoureux avaient été échangés, troqués dans la plus touchante effusion de cœur, et l'amour avait fait, à l'insu des parents, les préparatifs charmants d'un hymen que ceux-ci ne voulaient pas approuver. Un soir, qu'Amédée, rentrant du cercle de l'électeur à Bonn, savourait encore le bonheur d'y avoir rencontré sa belle amie, qui en avait fait les délices en plaçant de la harpe et en y faisant admirer sa voix mélodieuse, et qu'il jouissait par avance des plaisirs d'une nuit qui allait la lui représenter dans mille songes délicieux, l'écuyer de son père vint le prier de passer dans son appartement avant de se mettre au lit. Cette conduite extraordinaire ne lassa pas de l'inquiéter et de lui donner des pressentiments désagréables. On sait combien les amants et les cœurs coupables sont superstitieux. Tout leur semble devoir révéler leurs secrets, tout leur semble devoir renverser l'édifice fragile de leurs amours. Le baron d'Altamont fit asseoir Amédée près de son fauteuil, et ouvrant une lettre cachetée en noir, il lui dit « Vous êtes hors d'âge, mon cher Amédée, de former une union. Vous êtes l'unique héritier de mes biens et de mon sang. Et je ne doute pas, d'après les sentiments d'honneur que je vous connais, que vous en serez le digne soutien. Vous n'aurez pas manqué de remarquer le mérite de Christine de Melsimberg. Elle vous est destinée dès le berceau. Je dois la vie à son père, et pour preuve de mon éternelle reconnaissance, j'ai promis devant Dieu et l'honneur la main d'Amédée à sa fille. Elle est jeune, elle est belle, elle a de la naissance, et votre fortune réparera amplement les rigueurs de la sienne. Il est vrai, continua le baron d'Altamont, que je n'aurais pas cru vous confier si tôt le projet de cette alliance, mais la nouvelle de la mort du baron de Melsingberg, que je reçois d'un instant, hâte mes desseins, auxquels je suis d'ailleurs persuadé d'avance que vous donnerez les mains en fils respectueux. La foudre serait tombée en éclats aux pieds de notre infortuné héros, qu'elle ne l'aurait pas plus anéanti. D'un caractère franc, vif et sensible, incapable de feindre, Amédée ne répondit d'abord que par un sombre silence. Ses yeux voilés de ses longues paupières ne laissaient pas encore lire ce qui se passait dans son âme. Mais quand le baron, impatient et piqué de ses doutes, lui ordonna de s'expliquer clairement, Amédée ne dissimula point que son cœur était depuis longtemps engagé. Qu'il est vrai que s'il eût été plus tôt averti, il se serait bien gardé d'accueillir une passion qui pouvait porter atteinte aux volontés de son père, mais que son destin l'avait autrement disposé. Changeant alors de ton et d'attitude, Amédée déclara hautement, avec toute l'énergie de l'amour contrarié, qui n'aurait jamais d'autre femme que Blanche de Lindorf. À ce nom funeste pour le baron, son sang s'alluma. Il devint furieux. C'était la fille de son plus cruel ennemi, celui qui, près du prince électeur, l'avait indignement calomnié. Dégoûtant donc sa colère, il chassa de sa présence son malheureux fils et lui ordonna de changer de sentiment ou de n'espérer d'autre héritage que la malédiction paternelle. Ainsi, plus d'amour, plus d'hymen. Le songe s'évanouit comme un nuage brillant fondu par une violente tempête. Tous ces apprêts de bonheur que l'amour élève sur le lit nuptial, qu'il se plaît à éterniser dans ses premières illusions, et dont l'imagination passionnée d'Amédée s'était fait le plus riant tableau, s'écroulaient comme des onchets légers, et un long avenir de douleur remplaçait l'idée de la possession de la plus aimable des femmes. Quelle nuit en comparaison de celle que notre malheureux amant se proposait de passer! Il faut se rappeler toutes les tribulations d'amour qu'on a souffertes de soi-même pour s'en faire une plus juste idée. Ah, que la nuit alors, jointe à la solitude, de l'homme délaissé nourrit l'inquiétude. L'absence des objets rend ses maux plus présents. Rien n'en distrait son cœur, son esprit ni ses sens. Exhalant en soupir sa tristesse farouche, de sa longue insomnie il tourmente sa couche. Il se roule, il se lasse à chercher le repos. Tout son sang embrasé précipite ses flots, jusqu'à l'heure où l'aurore humide de rosée apporte un peu de calme à son âme apaisée, et chassant de la nuit les funèbres vapeurs, rend et le jour au monde, et l'espérance au cœur. L'espérance au cœur. Oh, elle n'entrait plus que difficilement dans celui du jeune baron. Il connaissait son père inflexible, inexorable dans ses premières volontés, et désespérait de le toucher par ses larmes et ses prières. Cependant, il le tenta plus d'une fois. Il se prosterna même aux genoux du baron, les arrosa de ses larmes, lui représenta dans les termes les plus pathétiques le désespoir de son amante, le soin de sa renommée qui pourrait souffrir de ses liaisons. Et surtout, mais surtout, il peignit en traits de feu son respect, son amour, sa reconnaissance éternelle pour son père, s'il daignait sourire à une union dont dépendait la félicité de toute sa vie. Christine de Melsenberg, ajouta-t-il avec un entraînement passionné, n'a pas de fortune. Eh bien, nous lui ferons un sort digne de sa naissance. Le baron de Lindorf vous a noirci dans l'esprit, là, le lecteur. Eh bien, Blanche vous promet par ma bouche, par l'organe de ma tendresse filiale, de vous réconcilier avec le prince, de vous faire entrer en grâce à sa cour et de vous y rendre plus puissant que jamais sous ses auspices. » Le baron, plus irrité que touché de ces propositions d'accommodement, déclara de nouveau avec fureur qu'il préférerait la mort à la médiation honteuse d'une femme en pareille circonstance, et qu'il considérait son fils comme son plus cruel ennemi s'il persistait dans ses projets. Et c'est à ce degré de mésintelligence qu'ils se séparèrent tous deux. Cependant, l'amour, toujours ingénieux à se ménager des consolations, avait suggéré à nos deux amants l'idée de se correspondre par de fréquents messages qui, jour et nuit, échangeaient de nouveaux serments de fidélité à toute épreuve. « Aucune puissance humaine, s'écrivait-il avec exaltation, ne peut nous séparer, et la mort même ne ferait que nous réunir dans la même tombe. » Mais le baron d'Altamont avait des soupçons sur cette correspondance, et pour la rompre aussitôt, il ordonna à son fils de se dire prêt à partir avec lui le jour même pour son château situé au milieu du Rhin, château nous avons déjà fait la description romantique. Le ciel parut signaler les apprêts de ce funeste voyage par les présages les plus sinistres. Un ouragan affreux se déchaîna contre la nature, engloutit de nombreux vaisseaux sur le fleuve ou les brisa sur des écueils, incendia des villages, et partout les éléments se couvrirent de crêpes funèbres. Le tonnerre même tomba en éclats au pied des chevaux de la voiture du baron, comme pour les forcer de renoncer à une entreprise fatale. Amédée, paisible devant tout ce bouleversement, y puisait même un certain charme. La douleur aime quelquefois à s'associer à des spectacles douloureux, et le chagrin mortel qu'il ressentait en s'éloignant de sa chair blanche lui faisait trouver un secret plaisir dans le danger. Mille fois, il prenait en lui-même la résolution de s'affranchir bientôt de l'autorité paternelle. Mais ce respect filial, qui jusqu'alors ne s'était jamais démenti, condamnait ses coupables pensées et lui faisait préférer le tâcher de toucher le corps baron par ses tendres supplications plutôt que de déroger un seul instant à ses sentiments respectueux. « Mon père m'aime au fond de l'âme, se disait-il. Moi-même, je l'adore, je suis son enfant unique. Il n'est pas possible que lorsque la première effervescence de ses ressentiments sera passée, il persiste dans ses cruels desseins. » Et c'est par ce consolant monologue que le jeune baron adoucit les blessures de son amour et versa sur elle le baume de l'espérance. Prodigue de soins et d'attention envers son père pendant tout le voyage, il s'appliqua particulièrement à dissiper sur son front sourcilleux ces nuages sombres, si affligeants pour l'œil d'un fils qui lit de cruels reproches, et il eut quelquefois le bonheur d'y faire briller quelques éclairs de sérénité. Mais, il faut le dire, il ne se les devait qu'à l'espoir que concevait le farouche baron d'Altamong qu'Amédée fléchirait docilement sous le joug de l'hymen projeté. Il ne souriait qu'à ce prix. Enfin, on arrive au bord du Rhin, sur la rive gauche. Un pont volant transporte l'équipage et chacun prend possession des appartements que les domestiques avertis d'avance par l'intendant de l'hôtel à Bonne avaient préparés au château. Les premiers jours se passèrent dans un silence étudié de part et d'autre, dans des rapports froids, plutôt de politesse que de véritable affection. On s'observait, et chacun paraissait attendre le moment favorable de tenter le succès qu'il se promettait de ses secrets desseins. Si Amédée 20 fois eut l'intention de chercher encore à fléchir son père, touchant son mariage avec Blanche, de son côté, le baron arrangeait dans sa tête de nouveaux moyens de conviction pour déterminer son fils. Et la crainte mutuelle de ne pas réussir faisait toujours expirer l'expression sur leurs lèvres. Cet état de choses était douloureux, pénible. Le baron, le premier, y mit fin en disant un soir à son fils qu'il ne doutait pas maintenant que de salutaires réflexions auraient indubitablement opérer une heureuse révolution dans ses sentiments, et qu'incessamment il pourrait sans doute le serrer dans ses bras, comme un fils soumis, qui ne voulait pas faire descendre au tombeau son malheureux père. Amédée se sentait percé d'un trait plus cruel par la douceur avec laquelle le baron le traita, que s'il eût éprouvé sa dureté ordinaire. Cependant le bonheur de Blanche et le sien lui étaient trop chers pour céder à ses nouvelles insinuations. Sa figure muette n'apprit donc que trop clairement que sa conscience était inébranlable. Dès ce moment, le baron, renonçant aux moyens que suggère la patience, ne songea plus qu'à déployer toute son autorité. Il appela donc un chapelain près de lui, fit venir Christine sous la conduite de son intendant, et ne pensa qu'à obtenir de la violence ce qu'on refusait à ses ordres. Dès ce moment aussi, Amédée, outré de tant de tyrannie, ne vit plus dans ce père, naguère adoré, naguère chéri, qu'un despote insensé, esclave d'un vain engagement, ou plutôt de son orgueil, et prit la ferme résolution de résister de tout son pouvoir à son despotisme. Hélas, plus à Dieu que ces semences de haine mutuelle n'ait pas poussé de plus profondes racines, que ses sentiments d'amour filial, changés en aversion du côté d'Amédée, ne se fussent pas aliénés au point nous n'osons achever. La nature nous refuse des pinceaux, aucun motif ne peut pallier l'horreur d'un parricide. Aussi nous nous garderons bien de l'entreprendre. Au contraire, nous chercherons des couleurs de sang. Nous offrirons dans toute l'énergie de notre propre imagination des tableaux empreints de tout l'opprobre, de toute l'infamie qui doivent rejaillir sur un semblable criminel. Sur ces entrefaites, Christine de Melsingberg arriva sous la conduite de l'intendant du baron. Amédée ne put lui refuser les politesses d'usage. Mais elles furent si froides que dans une pareille situation, elle ne pouvait être considérée par une femme que comme un sanglant affront. Le baron d'Altamont n'en persista pas moins avec opiniâtreté dans son projet, et pour le faire appuyer, il sollicita de l'électeur l'ordre de faire enfermer son fils s'il refusait d'exécuter ses ordres. Et par une double manœuvre, effet du crédit qu'il avait repris dans l'esprit du prince, il fit exiler à 100 lieues de là l'infortunée Blanche comme calomniatrice, ainsi qu'ayant voulu semer la division dans une famille respectable en séduisant avec projet le fils du baron d'Altamont. Amédée, ayant été instruit de ces nouvelles persécutions par un marin parti dans un léger esquif de la ligne droite du Rhin, et qui lui avait rapporté mystérieusement une lettre de Blanche dans laquelle elle lui apprenait qu'elle avait su se dérober à temps à la tyrannie de ses ennemis et était en sûreté avec son père dans un bourg peu éloigné, Amédée, dis-je, ne se contentant plus dans sa rage, jure, prononce l'affreux serment de se venger. Sur qui, grand Dieu? Sur son père. C'est donc le sang d'un père qui va expier les chagrins de l'amour. Ce Dieu a produit bien des désastres, bien des malheurs, mais en est-il un plus grand que le fratricide? Et l'amour même ne brise-t-il pas ses flèches? Ne s'enveloppe-t-il pas de craques épais quand il voit ses autels souillés d'un sang aussi précieux? Pendant que le fleuve majestueux prête ses ondes officieuses à la correspondance nocturne des deux amants, qui se jurent de s'adorer toujours et que le batelier, largement récompensé et dans la confidence, déposent leur brûlante missive dans un des créneaux près du pont-levis, le baron d'Altamont combine en silence avec son chapelain les moyens de forcer son fils à l'union qui sourit seul à son opiniâtreté et à son orgueil. La chapelle du château, lui dit-il, peut parfaitement nous servir. Mes gens me sont dévoués et m'aideront au besoin de toute leur force pour arracher le oui, principal sceau de l'alliance, et le temps achèvera de consacrer les liens faits sous des auspices un peu rigoureux. Croirait-on que Christine de Melsingberg, sans pudeur pour ce qu'elle devait à son sexe, était de ces secrets conciliabules? Mais à quelles inconvenances ne conduit pas la jalousie d'une rivale? Christine avait en horreur le seul nom de Blanche et la seule pensée de se voir enlever, par cette beauté trop dangereuse, l'époux qu'on lui destinait dès le berceau la portait au plus grand emportement. Toutes les ruses, la violence même, lui parurent donc justifiées du moment qu'il s'agissait de remporter sur cette odieuse concurrente. Malheureusement pour elle, l'amour ne se gagne pas par des menaces et de la tyrannie. C'est un enfant délicat qui n'aime que les liens de fleurs, encore ce qu'il s'est choisi lui-même, qu'il faut aduler sur un lit de roses, et qui fuit aussitôt épouvanté si l'on prononce devant lui le nom de maître. Christine s'est donc étrangement abusée sur les moyens de se rendre accessible le cœur d'Amédée, et lorsque ce dernier, poussé à bout par les violences qu'on lui fit, en tentant de l'entraîner dans la chapelle, fut convaincu qu'on cherchait à surprendre sa religion par la force, il déclara hautement que désormais on le trouverait toujours armé, comme dans un séjour dangereux, pour la sûreté de sa vie. Dans cette extrémité, il eut souvent l'idée de fuir, de rejoindre son amante, mais il craignait de compromettre sa réputation, aussi chère que son honneur. Il craignait d'encourir la malédiction paternelle, dont le baron l'avait souvent menacé s'il persistait à éluder ses volontés. Après de mûres réflexions et de nouveaux avis de Blanche, il affecta donc de s'humaniser avec l'idée de prendre Christine pour épouse. Il mit dans ses manières et ses rapports avec elle moins de rudesse et de froideur, et par ce nouveau stratagème, trompa son père sur ses véritables intentions. Le baron, charmé de cet heureux changement, s'excusa même auprès d'Amédée et des moyens inconvenants qu'on avait employés pour l'obliger à cette alliance. Il en rejeta l'odieux sur le chapelain qui seul les avait conseillés, et son renvoi fut le premier résultat de la dissimulation de notre héros. Il lui restait à se défaire de la présence de Christine. Une fête qui se donna à Bonne servit de prétexte pour retourner à la ville et la laisser auprès de sa mère. Les convenances ne seront-elles pas observées avec beaucoup plus de justesse et de délicatesse dans la personne de ma future épouse ? Fit observer Amédée à son père, car le public me verra rendre des soins à une distance respectueuse à celle qui doit porter mon nom. Tout ne portera pas, comme avant, les témoignages d'une sourde contrainte, et l'autorité paternelle ainsi que mes propres inclinations y gagneront sous tous les rapports. Mais le baron, séduit par ses sophismes, accueillit ce plan, puisqu'il flattait sa fatale chimère. Amédée faisait donc du château à Bonne de fréquentes absences, dont sa prétendue tendresse naissante pour Christine était le voile, mais dont Blanche, incessamment sur la rive droite, recueillait tout le prix, en recevant chaque fois dans ses bras, à la faveur d'un flambeau tutélaire, le fidèle Amédée qui, nouveau Léandre, venait dans une barque cueillir sur les lèvres de son amante le prix de sa constance et de son adresse. Tous étaient heureux au moyen de ce piège adroit. Christine croyait, dans son aveuglement, avoir triomphé de sa rivale. Le baron d'Altamonde s'enorgueillissait de se voir enfin obéi. Et Blanche et Amédée, sous l'épais rideau de cette feinte, se livraient aux délices d'une passion dont ils se seraient bien gardés d'ailleurs de pénétrer l'avenir inquiétant. Et ce bonheur ne pouvait pas être de longue durée. Ce fut encore le baron qui le rompit, en faisant acheter à Koblenz les présents de noces et en faisant dire une dernière fois à son fils que rien ne pouvant plus mettre obstacle au bonheur de ses vieux jours, il ne lui restait plus qu'à aller complimenter Christine en qualité de son épouse. « Voilà, » continua-t-il, en lui remettant une somme considérable en or, « voilà de quoi faire l'achat des prieries dont vous parlez ces attraits. Je vous en laisse le choix et la disposition, persuadé que, présentées par vos mains, elles auront encore plus de prix. » Amédée prit l'or, mais, voyant l'inflexibilité de son père, se convainquant que le temps, la ruse ni la douceur ne le feraient renoncer à ses premiers projets, Amédée, l'infortuné Amédée, accueille aussitôt dans son cœur l'idée la plus horrible que l'enfer puisse y faire naître, et le consultant que sa vengeance et l'égoïsme de sa passion, ce ne sont pas les diamants qu'il se propose d'achever à Koblenz, ce ne sont pas les couronnes et la parure de l'hymen dont il va repaître son imagination. Qu'est-ce donc ? C'est un poignard. C'est un affreux poignard qu'un juif, plus affreux peut-être, lui vend à un assez haut prix pour l'avoir acquis lui-même par brocantage d'un fameux brigand de la forêt noire. Ainsi cette lame, plongée souvent dans le sein d'un voyageur, ce fer qui tant de fois a servi les complots de l'assassin, se revêtant cette fois d'une nouvelle horreur, va mettre le comble à son infâme usage en devenant parricide. Amédée, muni de cet acier criminel, semble recueillir un nid de serpent dans son sein. Son œil est déjà trouble. L'inquiétude brûlante habite sur son front et la nature à ses yeux a changé tous ses prismes. Le spectacle de la campagne n'est plus qu'un effroyable fantôme. Les objets les plus riants prennent la figure de monstres. C'est enfin déjà un parricide dans l'intention. Qui transfuge de la vertu s'est identifié avec toutes les horreurs de son crime. Quelques remords impuissants viennent bien de temps en temps se faire jour à travers cette funeste démence, mais ils glissent sur le calice de ses passions, et il est écrit d'un arrêt irrévocable qu'Amédée, le monstre Amédée, jusqu'alors vertueux, doit franchir d'un seul coup la barrière immense qu'il sépare du forfait et doit immortaliser son nom dans les fastes criminels de l'Allemagne. Parti à cheval de Koblenz à la nuit close, il arriva à travers des monceaux de neige et le plus mauvais temps au château d'Altamong. Les nuages, l'astre de la nuit, la simple agitation d'une feuille, tout le faisait frémir et couvrait son front d'une sueur froide. Un gibet qu'il aperçut dans le lointain paraissait l'accuser, l'appeler à lui comme une proie naturelle. Et des oiseaux de passage qui voltigeaient autour semblaient également faire retentir ce cri dans son âme. La dépouille du parricide nous appartient. C'est dans cet état d'angoisse et de perplexité que notre coupable héros entra dans une demeure à laquelle les cieux ne voulaient plus sourire. C'est, dis-je, dans ces préludes horribles de tourments plus horribles encore, qu'Amédée se précipita dans son appartement. La cloche funèbre du château sonnait alors 11 heures, et son timbre déchirant lacérait son cœur et lui faisait voir 1000 pâles fantômes rassemblés sous les noirs étendards de la mort. Mais tous ces avertissements du ciel ont beau chercher à retenir sa main, rien ne peut le dissuader de son dessein. Il est enfin attaché au crime comme par un câble, et il faut que ses fatales destinées s'accomplissent. Il a sorti son poignard, en a consulté la pointe, il la trouve aiguë et sûre. La longueur de la lame lui semble aussi devoir porter un coup infaillible. Il calcule le monstre, quelle profondeur elle peut atteindre. En ce moment, le baron, son père lui-même, entre et, d'un ton affectueux et caressant, lui reproche de s'être exposé ainsi de nuit à travers une forêt trop fameuse en assassinat. Amédée a donc à peine le temps de cacher son poignard dans son sein, et la promptitude de son mouvement fait qu'il se porte une légère blessure. Mais, dissimulant le mieux possible son trouble, il improvise une fable assez ingénieuse sur le présent déjà fait à sa future, rapporte ses prétendues expressions d'amour et de reconnaissance, et le baron Altamong, complètement trompé, se retire en emportant la plus gracieuse image de l'avenir. Amédée le reconduit respectueusement jusque dans son appartement, et ayant ordonné qu'on se desservît le souper, ne se sentant, dit-il, aucun appétit, il profite adroitement des allées et venues des domestiques et coupe les cordons de sonnette qui pendaient près du chevet du lit du baron. Le lecteur en verra par la suite le cruel motif. Puis, baissant respectueusement la main de son père, qui cette fois lui donne lui-même les plus tendres baisers et le serre affectueusement dans ses bras, il ne se retire qu'après avoir remarqué soigneusement les plus petites particularités des localités de l'appartement. Le baron, après s'être prosterné quelques minutes au prie-Dieu qui était dans son alcôve, se couche en se félicitant des dispositions favorables du sort pour sa famille. Tout est donc enseveli au château dans un profond sommeil. La chambre de l'écuyer n'est pas, il est vrai, éloignée de celle du baron d'Altamong, mais c'est un hommage lent qui ne gênera pas longtemps. Une lampe en cuivre brûle suspendue au plafond. Sa lueur, toute faible qu'elle est, peut gêner. Amédée s'est déjà muni d'un morceau de drap noir à l'effet de l'éteindre en la couvrant. Notre parricide a donc tout prévu pour se perdre, et la vertu ne prendrait pas plus de soin pour une belle action. Le baron étant dans l'usage de laisser la clé à la porte de son appartement, il était facile d'y pénétrer de nuit. Gardé par le voisinage de son fils, pouvait-il croire jamais qu'il perdrait la vie des mains de celui à qui il l'avait donnée? Il était déjà 1 heure du matin et le fleuve, agité par les vents précurseurs d'un orage, battait avec violence de ses flots les murs des tourelles. Des rideaux épais de nuages, descendus presque au niveau des vagues, semblaient vouloir couvrir d'un voile impénétrable la demeure du parricide et dérober son forfait au reste des humains. Les seules lumières qu'ils y laissaient pénétrer ne provenaient que des sillons de la foudre qui, après un bourdonnement sourd, venait secouer brusquement son éclat livide. Toute la nature ne devait-elle pas être en deuil aux funérailles d'un père égorgé par son propre fils? C'est dans cet appareil épouvantable des éléments en fureur qu'Amédée prend son poignard à la main le chemin de l'appartement du baron. C'est, guidé par les éclairs, trop souvent les guides du forfait, qu'il y entre. Le visage enveloppé d'un masque, il marche. Il s'élance d'abord vers la lampe qui l'étouffe, ensuite vers le baron qui sommeille, et lui porte dans le cœur un coup parricide, dont le ciel en courroux marque sa réprobation, en faisant en même temps tomber le tonnerre dans l'appartement. Le baron, percé en plusieurs endroits d'un fer mortel, balbutie quelques mots d'une voix expirante, et ces mots sont « Amédée, Amédée, mon cher fils, préserve ton père des coups d'un assassin !» En se débattant au milieu des flots de sang qui s'élancent de ses blessures, l'infortuné avait cherché à se jeter sur les cordons de ses sonnettes, mais la précaution qu'avait prise Amédée de les couper très haut l'avait privé de ce secours. Pour assurer son impunité, l'assassin place aux fenêtres du balcon une échelle de corde, enlève lui-même une grande quantité d'or et de bijoux, afin de laisser présumer que l'attentat a été commis de dehors, et jetant son poignard dans le fleuve avec son masque liés ensemble, il pense ainsi avoir anéanti toutes les preuves matérielles de son parricide. L'écuyer accourt au gémissement qu'il a entendu, Amédée de son côté, feignant de sortir de sa chambre, porte sur sa figure tous les signes de la plus vive crainte sur les jours de son père. On apporte de la lumière, et le corps sanglant du baron d'Altamong ne prouve que trop qu'il est tombé victime sous les coups d'un assassin. Amédée, poursuivant son rôle affreux, feint de découvrir le premier les échelles de cordes, les coffres-forts brisés, le perfide à l'impudeur de se précipiter dans une barque avec le dessein simulé de poursuivre les meurtriers. Mais le monstre, ce n'est qu'effectivement que pour laver dans le fleuve les taches de sang dont ses mains sont encore souillées. Ne se démentant pas dans cette comédie atroce, il a encore l'audace, le lendemain, d'aller se jeter aux pieds du prince et de le supplier de poursuivre de toute sa puissance les assassins de son père, dont l'ombre encore sanglante venait déjà chaque nuit épouvanter ses songes et appuyer sur ses lèvres tremblantes la première blessure portée au cœur. Plus de repos, que dis-je ? La vie du parricide est le foyer de l'enfer même, placé dans le cœur d'un mortel. Le crime a déjà découvert, sous son œil épouvanté, un voile de tristesse et d'horreur étendu sur l'immense avenir. La sombre mélancolie des forfaits est descendue dans l'âme d'Amédée, et l'amour flétri sous l'opprobre peut à peine s'y réveiller un sentiment. En vin blanc, s'est accourue à l'affreuse nouvelle de cet épouvantable assassinat. En vain, elle presse son amant, elle le conjure, de mettre un terme à de si grandes douleurs et de vivre du moins pour elle. Amédée, toujours en proie à la démence de son crime, la méconnaît souvent elle-même, et dans l'excès de ses souffrances, est prête à se trahir 1000 fois en laissant triompher ses remords. Des obsèques magnifiques avaient été faites au baron, et les enquêtes les plus rigoureuses sur le délit avaient également eu lieu par les soins du ministère public. Mais elle n'avait encore rien produit quand Christine de Melsenberg, instruite dans la suite par des redites des stratagèmes qui avaient été employés par les deux amants pour la tromper, ainsi que le baron, soupçonna la vérité, et seulement éclairée des lumières de sa jalousie, entreprit tout pour la découvrir. D'abord, elle avait pris à son service, pour le questionner sur les plus petits détails, un domestique trop clairvoyant qu'Amédée avait chassé de son service. Ce dernier, qui ne dormait pas dans la nuit de l'assassinat, avait vu des choses étranges, entre autres les cordons de sonnette dans les effets de son maître. Ces indices étaient effrayants, mais il n'était pas encore de pleine conviction quand un pêcheur, ayant tendu un matin ses filets au pied des murailles du château, retira au milieu de ses raies le masque et le poignard que le parricide y avait jeté. Ce poignard était riche, et dans la crainte qu'il ne lui fût réclamé, il le cacha soigneusement. Et par une bizarrerie d'événements bien étonnante, il alla le vendre à Koblenz et s'adressa au même juif qu'il avait cédé à Amédée. Mais au moment où le marché est à peine conclu, l'infâme israélite, poursuivi depuis quelque temps pour certains délits d'usure, est arrêté, fouillé, lui et le domestique, et dans les développements du procès, le poignard maintes fois placé au premier rang des preuves matérielles donne lieu aux interrogatoires et aux éclaircissements les plus curieux, qui enfin conduisent en dernière analyse et font remonter les juges à l'assassinat du baron d'Altamonde. Le bruit en parvient même aux oreilles d'Amédée, qui frissonne, qui frémit à cette affreuse nouvelle. Et depuis longtemps incapable de supporter les regards de sa maîtresse, déchiré de remords, c'était jusqu'en son propre sein chercher un vengeur. Une sueur froide couvre son corps. Il se roule, il appelle la mort. Il veut s'élancer au-delà des barrières de la vie. Et au milieu de cette agonie affreuse, il avoue en vomissant des caillots de sang qu'il n'est que trop vrai qu'il est l'assassin de son père. À cet horrible aveu, Blanche, qui ne sent que trop qu'elle a contribué, quoique involontairement, à l'exécution de ce crime, cherche avec son père à calmer les remords de son amant. Votre douleur, cher Amédée, lui dit-elle, vous fait prendre le change. Vous vous accusez innocent pour que votre sang apaise le sang irrité de votre père. Au nom de Dieu, au nom de votre amour, recueillez vos esprits. Pour toute réponse, Amédée la regardait d'un œil hagard, renversé. Il lui montre dans une pantomime affreuse que le poignard homicide le blessa le premier, et que ce même poignard, pièce irréfragable, se trouvait déjà dans les mains du juif dont il était sorti. Blanche, malgré ses preuves déchirantes, cherchait encore à se faire illusion. Mais le remords avait triomphé et tous les gens du château avaient entendu cette étonnante confession. De son côté, Christine de Melsenberg suivait à la trace dans la procédure criminelle instruite contre le juif les indices qui accréditaient déjà ses violents soupçons. L'espoir de répandre une flétrissure ineffaçable sur la réputation de la rivale qu'elle abhorrait, de faire tomber sur l'échafaud la tête de l'amant qui avait méprisé sa personne et sa jeunesse, en avait fait une véritable Hermione. Et dans ces scènes sanglantes, l'amour, foyer trop commun des plus terribles passions, ne marchait plus qu'à la lueur des torches de l'envie et de la vengeance. Avec les aveux d'Amédée, les juges ne pouvaient tarder à obtenir une pleine conviction. Le parricide fut confronté avec le juif. Le pêcheur déclara l'endroit où il avait trouvé le poignard et le masque. Et de toutes parts, Thémis inexorable élevait le billot sur lequel devait tomber la tête de cet affreux homicide. Les États assemblés ordonnèrent que, vu l'énormité du forfait, l'exécution aurait lieu là où il avait été commis, c'est-à-dire au château du Rhin et dans l'appartement même du baron d'Altamong. Le sang du plus grand des criminels fuma donc dans ce lieu d'horreur où le sang de l'innocent avait été également répandu. Amédée marcha à la mort, couvert d'un long crêpe et d'une robe rouge, sans jactance et sans faiblesse. Il consacra ses derniers moments à la religion et à Blanche son dernier soupir. Celle-ci survécut peu de temps à cette épouvantable catastrophe. Et l'opinion publique, d'un autre côté, ayant signalé Christine de Meissenberg comme une femme dangereuse et vindicative, elle fut obligée de s'exiler avec sa cruelle joie. Les rives du Rhin dans ces parages ne portaient donc partout que l'image du deuil et de la consternation. Un parricide parmi un peuple civilisé est un sujet de calamité générale. À ces justes motifs de désespoir se joignirent des phénomènes effrayants au château. Les murailles suèrent du sang, et pendant la nuit on entendait distinctement les accents plaintifs d'une victime qu'on assassine. En outre, à l'anniversaire du parricide, à une heure précise du matin, des ombres lugubres investissaient les tours, les donjons. À travers leur rage, la foudre les éclaire, un spectre masqué, enveloppé dans un manteau, avançait un bras teint de sang hors de la fenêtre du baron d'Altamong et jetait un masque et un poignard ensanglanté dans le fleuve. L'onde frémissait comme blessée de cet instrument horrible. Cette demeure fut donc abandonnée au génie du remords, qui s'en emparèrent et, chaque fois que quelqu'un audacieux tentait d'y pénétrer, une voix formidable s'écriait « Fuis, téméraire, et redoute les ombres sanglantes du parricide !» Les peuples des deux rives furent longtemps consternés de l'aspect de tous ces prodiges, et le gouvernement même se proposait de faire détruire ce château de funeste mémoire quand un nouvel anniversaire du meurtre, au moment où le spectre masqué jette son poignard dans le Rhin, un coup de tonnerre terrible s'était fait entendre. Il abîma sous les ondes la demeure maudite et laissa à sa place une île de saules pleureurs et de cyprès, du sein desquels s'élevait un mausolée magnifique au mâne de l'infortuné baron d'Altamong. On y allait en pèlerinage et on y vint même de très loin jeter des fleurs sur cette tombe sacrée.